Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, Alep, la deuxième ville syrienne tombée aux mains d'une alliance de groupes djihadistes et rebelles. La majeure partie de la grande ville du Nord est maintenant sous son contrôle au terme d'une offensive éclair qui n'a pas rencontré de résistance. À suivre dès le début du journal. Au sud du Liban, la trêve est très fragile. Ce matin, l'armée israélienne a frappé un site à la frontière, affirmant qu'il servait au Hezbollah pour acheminer des armes. En Géorgie, les autorités annoncent plus de 100 arrestations au deuxième jour des manifestations anti-gouvernementales. Le plastique et ses dangers pour la santé au cœur de discussion en Corée du Sud. Plusieurs délégations craignent un échec du sommet de Busan, faute de consensus à la veille de la date butoir. Une attaque éclair de seulement 3 jours aura suffi. Les djihadistes et leurs alliés donc contrôlent maintenant la majeure partie d'Alep, deuxième ville syrienne avec 2 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest du pays. Les forces anti-gouvernementales ont avancé très vite cette semaine, sans rencontrer de véritable résistance, les autorités ayant pris la fuite. Le point avec Paul Ralifé.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté ce matin que l'armée syrienne s'est retirée de l'ensemble de la ville d'Alep, deuxième métropole du pays, sans véritable résistance face aux forces anti-gouvernementales conduites par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Sham. Les troupes gouvernementales se sont retirées vers l'aéroport international d'Alep, au sud de la ville, de peur d'être totalement encerclées après que les rebelles aient coupé la route Damas-Alep, principale voie de ravitaillement. Les djihadistes et leurs alliés ont occupé la ville stratégique de Saraqib et 20 autres localités autour de l'autoroute M5 qui traverse la Syrie d'ouest en est en passant par les provinces d'Idlib et d'Alep. Les troupes gouvernementales et leurs alliés envoient des renforts pour tenter de stopper l'avancée des djihadistes et des rebelles. Des troupes de la 4e division de la garde républicaine, dirigée par Maher al-Assad, le frère du président Bachar al-Assad, ont été attaquées dans le désert central de Syrie par le groupe État islamique alors qu'elles se dirigeaient vers Alep. Le front de l'ouest d'Alep a été affaibli par le retrait ces derniers mois de milliers de combattants du Hezbollah envoyés en renfort dans le sud du Liban pour faire face à l'offensive israélienne. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Et l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de raids de l'aviation russe sur Alep contrôlée par les rebelles, la Russie de Vladimir Poutine étant l'allié du régime de Bachar al-Assad. L'armée française est donc poussée vers la sortie au Tchad et au Sénégal, deux anciennes colonies qui ont exprimé leur souhait de voir partir les soldats français stationnés sur leur territoire. Succès Masra a été premier ministre du Tchad. Il est maintenant l'une des principales figures de l'opposition tchadienne. Il estime qu'avec cette rupture, la France paie le prix de ses erreurs, tout en restant dubitatif sur les véritables raisons de la décision du régime tchadien. On l'écoute.
L'histoire nous donne raison sur le fait que dans le Sahel, l'attitude de la France allait être son tombeau. La France aurait pu éviter l'humiliation et ne pas donner l'impression d'être une sorte d'armée sans domicile fixe qui, chassée du Mali, va au Burkina, chassée du Burkina, déménage au Niger, chassée du Niger, va au Tchad et maintenant du Tchad, sans en tirer les leçons. Au Tchad, la France et son armée ont soutenu des régimes souvent impopulaires, minoritaires, brutaux, en fermant les yeux pour couvrir des fausses élections ou mater des rébellions.
Mais en l'occurrence, c'est le régime en place qui rompt ce même régime qui a été soutenu, comme vous le dites, par Paris.
Voilà, donc les Tchadiens se demandent quel est l'intérêt particulier sur lequel ils ne se sont pas entendus, où se cache la vérité.
Est-ce que la France doit être remplacée au Tchad par d'autres puissances militaires?
Il n'y a pas de mauvais partenaires, il n'y a que des mauvais partenariats. Les nouvelles générations que nous incarnons veulent des partenariats nouveaux avec des anciens partenaires ou avec des nouveaux partenaires en s'ouvrant au monde entier.
L'opposant tchadien Succès Masra, joint par David Baché.
Bucarest, 93.5 FM.
En Géorgie, les autorités annoncent un total de 107 arrestations, deuxième jour des manifestations anti-gouvernementales. En pleine crise post-électorale, l'opposition reproche au gouvernement sa décision de reporter les discussions sur l'adhésion à l'Union européenne. Hier soir, les forces de l'ordre ont fait usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser des milliers de manifestants. En Roumanie, la Cour constitutionnelle décidera lundi s'il convient d'annuler les résultats du premier tour de la présidentielle, un scrutin remporté dimanche dimanche dernier par un candidat indépendant pro-russe. Ce vote surprise a entraîné des suspicions d'irrégularité. La Cour a repoussé sa décision au lendemain des élections législatives qui se tiendront demain dimanche. Romain Lechiniu est spécialiste de la Roumanie. Il s'attend à une montée de l'extrême droite demain.
Je pense qu'il y a de vraies fortes inquiétudes sur les conséquences de cette enquête. Il y a une forte inquiétude en fait pour les législatives et qu'il y a un surplus de mobilisation d'un électorat anti-système de la part d'un électorat qui est contre les partis traditionnels de Roumanie. On n'y est pas, mais on peut voir dans les premiers sondages sortis après la victoire surprise au premier tour de Monsieur Georgescu que beaucoup de sondages indiquent une montée de l'extrême droite des deux partis mentionnés auparavant. Donc il y a une inquiétude sur les conséquences possibles. Le président en Roumanie n'a pas beaucoup de pouvoir, est un pouvoir très représentatif. Donc là, il y a une mobilisation aussi des partis pour le système, des partis pro-européens, des partis traditionnels, dirons-nous, pour faire le résultat le plus important possible et pour être capable ensuite d'être en position de former une coalition gouvernementale qui soit, encore une fois, pro-européenne, pro-OTAN, dans les directions que la Roumanie a connues ces 30 dernières années.
Éclairage de Romain Lechiniu, recueilli par Théo Renaudon. En Italie, les choix budgétaires du gouvernement Meloni s'attirent les foudres d'une partie de la population qui le fait savoir. Une manifestation a rassemblé des milliers de personnes hier à Rome, à l'appel notamment de la CGIL, c'est le premier syndicat de salariés en Italie. Les manifestants ont défilé pour obtenir des hausses de salaire, mais surtout pour défendre les services publics de la santé et de l'école. Reportage de notre correspondante Anne Lenir.
Une ambiance pétillante, des milliers de drapeaux bleus et rouges flottant au vent, l'incontournable Bella Ciao. Parmi la foule, Laura, chercheuse à l'Institut National de Statistique, nous résume ce qui fait monter la tension des travailleurs.
Nous sommes dans les rues parce que nos contrats de travail expirés ne sont pas renouvelés et pour la situation des écoles et de la santé publique que le gouvernement Meloni a considérablement détériorée.
Monica, infirmière à Rome, lui fait écho.
Les listes d'attente sont très très longues. Si j'ai besoin d'un médecin, je prends rendez-vous dans une structure privée, mais tout le monde ne peut pas se le permettre. J'ai voté pour ce gouvernement et je me sens trahie.
Lycéenne de 16 ans, Anita fait partie de tant de jeunes qui se considèrent pénalisés par le budget consacré à l'éducation, 7% du PIB contre 10% en moyenne dans les autres pays de l'OCDE.
Nous croyons en une école publique égalitaire. Il faut investir dans l'enseignement car l'éducation est un pilier de notre pays.
Pour Maurizio Landini, leader du syndicat CGIL, il est temps que le gouvernement Meloni écoute les personnes qui luttent pour leurs droits. Anne Lenir, Rome, RFI.
Enfin, le plastique et ses dangers pour la santé au cœur de discussions en Corée du Sud. Un sommet sur le sujet se tient actuellement à Busan. Que ce soit dans l'eau, dans l'air ou dans nos aliments, le plastique est omniprésent et les traces qu'il laisse sont nocives pour les êtres vivants, dont l'homme. Célio Fioretti, les scientifiques réunis à ce sommet international actionne l'alarme.
Le plastique est partout, même dans nos corps. On ingérerait plusieurs centaines de microplastiques par jour au travers de notre alimentation. Muriel Mercier-Bonin est chercheuse à l'INRAE. Elle étudie les effets du plastique sur notre santé.
Donc dans les plastiques, il y a à ce jour 16 000 substances chimiques qui ont été identifiées. Et à ce jour, il y a un quart de ces 4000 composés qui ont été identifiés comme potentiellement dangereux pour la santé humaine.
Et pour les autres, il n'y a pas encore de données ?
Parce qu'en fait, souvent, on a des formulations qui sont complexes, des formulations qui ne sont pas complètement transparentes par rapport à ce qui est mis dans le plastique pour donner ses propriétés. Donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, pour l'instant, on a des données qui restent à étayer pour l'ensemble, en fait, des substances chimiques qui sont présentes dans ces plastiques.
Des substances chimiques qui ne sont pas sans effet sur la santé des corps qui y sont exposés.
On a beaucoup parlé du bisphénol A, par exemple, le BPA, sur les phtalates, avec des effets en termes de maladies métaboliques, de cancer. Et ça peut concerner, et ça aussi il faut le garder à l'esprit, c'est que ça peut concerner l'être humain sur l'ensemble de sa vie.
Présente à Busan, elle fait partie d'une délégation scientifique qui aide les États membres à comprendre les enjeux de santé autour du plastique pour l'inscrire dans le traité en cours d'écriture. Célio Fioretti, Busan, RFI.
Et à ce sommet, plusieurs délégations n'ont pas caché ce matin leur crainte d'un échec, faute de consensus à la veille de la date butoir. Bonne journée sur RFI. Tout de suite, écho d'ici, écho d'ailleurs. Le rendez-vous de Bruno Faure.